Chapitre 8. Paris 1838. Monsieur de Talleyrand. Au printemps de cette année 1838, je me suis occupé du congrès de Vérone, qu'au terme de mes engagements littéraires, j'étais obligé de publier. Je vous en ai entretenu, en son lieu, dans ses mémoires. Un homme s'en est allé. Ce garde de l'aristocratie escorte en arrière les puissants plébéiens déjà partis. Quand M. de Talleyrand apparut pour la première fois dans ma carrière politique, j'ai dit quelques mots de lui. Maintenant, son existence entière m'est connue par sa dernière heure, selon la belle expression d'un ancien. J'ai eu des rapports avec M. de Talleyrand. Je lui ai été fidèle en homme d'honneur, ainsi qu'on l'a pu remarquer, surtout à propos de la fâcherie de Mons, alors que très gratuitement je me perdis pour lui. Trop simple, j'ai pris part à ce qui lui arrivait de désagréable. Je le plaignis lorsque Maubreuil le frappa à la joue. Il fut un temps qu'il me recherchait d'une manière coquette. Il m'écrivait à Gand, comme on l'a vu, que j'étais un homme fort. Quand j'étais logé à l'hôtel de la rue des Capucines, il m'envoya avec une parfaite galanterie un cachet des affaires étrangères, talisman gravé sans doute sous sa constellation. C'est peut-être parce que je n'abusais pas de sa générosité qu'il devint mon ennemi sans provocation de ma part, si ce n'est quelque succès que j'obtins et qui n'était pas son ouvrage. Ses propos couraient le monde et ne m'offensaient point. M. de Talleyrand ne pouvait offenser personne. Mais son intempérance de langage m'a délié, et puisqu'il s'est permis de me juger, il m'a rendu la liberté d'user du même droit à son égard. La vanité de M. de Talleyrand le pipa. Il prit son rôle pour son génie. Il se crut prophète en se trompant sur tout. Son autorité n'avait aucune valeur en matière d'avenir. Il ne voyait point en avant, il ne voyait qu'en arrière. Dépourvu de la force du coup d'œil et de la lumière de la conscience, il ne découvrait rien comme l'intelligence supérieure. Il n'appréciait rien comme la probité. Il tirait bon parti des accidents de la fortune quand ces accidents, qu'il n'avait jamais prévus, étaient arrivés, mais uniquement pour sa personne. Il ignorait cette ampleur d'ambition laquelle enveloppe les intérêts de la gloire publique comme le trésor le plus profitable aux intérêts privés. M. de Talleyrand n'appartient donc pas à la classe des êtres propres à devenir une de ces créations fantastiques auxquelles les opinions, ou faussées ou déçues, ajoutent incessamment des fantaisies. Néanmoins, il est certain que plusieurs sentiments, d'accord par diverses raisons, concourent à former un Talleyrand imaginaire. D'abord, les rois, les cabinets, les anciens ministres étrangers, les ambassadeurs, dupes autrefois de cet homme et incapables de l'avoir pénétré, tiennent à prouver qu'ils n'ont obéi qu'à une supériorité réelle. Ils auraient ôté leur chapeau aux marmitons de Bonaparte. Ensuite, les membres de l'ancienne aristocratie française, liés à M. de Talleyrand, sont fiers de compter dans leur rang un homme qui avait la bonté de les assurer de sa grandeur. Enfin, les révolutionnaires et les générations immorales, tout en déblatérant contre les noms, ont un penchant secret vers l'aristocratie. Ces singuliers néophytes en recherchent volontiers le baptême, et ils pensent apprendre avec elle les belles manières. La double apostasie du prince charme en même temps un autre côté de l'amour-propre des jeunes démocrates, car il conclut de là que leur cause est la bonne et qu'un noble et un prêtre sont bien méprisables. Quoi qu'il en soit de ces empêchements à la lumière, M. de Talleyrand n'est pas de taille à créer une illusion durable. Il n'a pas en lui assez de faculté de croissance pour tourner les mensonges en rehaussement de stature. Il a été vu de trop près. Il ne vivra pas parce que sa vie ne se rattache ni à une idée nationale restée après lui, ni à une action célèbre, ni à un talent hors de pair, ni à une découverte utile, ni à une conception faisant époque. L'existence par la vertu lui est interdite. Les périls n'ont pas même daigné honorer ses jours. Il a passé le règne de la terreur hors de son pays il n'y est rentré que quand le forum s'est transformé en antichambre. Les monuments diplomatiques prouvent la médiocrité relative de Talleyrand. Vous ne pourriez citer un fait de quelque estime qui lui appartienne. Sous Bonaparte, restreint à l'exécution des ordres impériaux, aucune négociation importante n'est de lui. Quand il a été libre d'agir seul, il a laissé échapper les occasions et gâté ce qui le touchait. Il est bien avéré qu'il a été cause de la mort du duc d'Enghien. Cette tache de sang ne peut s'effacer. Loin d'avoir chargé le ministre en rendant compte de la mort du prince, je l'ai beaucoup trop ménagé. Dans ses affirmations contraires à la vérité, M. de Talleyrand avait une effrayante effronterie. Je n'ai point parlé, dans le congrès de Vérone, du discours qu'il eut à la Chambre des Pairs relativement à l'adresse sur la guerre d'Espagne. Ce discours débutait par ces paroles solennelles. Guillemets. Il y a aujourd'hui 16 ans qu'appelé, par celui qui gouvernait alors le monde, à lui dire mon avis sur la lutte à engager avec le peuple espagnol, j'eus le malheur de lui déplaire en lui dévoilant l'avenir, en lui révélant tous les dangers qui allaient naître en foule d'une agression non moins injuste que téméraire. La disgrâce fut le fruit de ma sincérité. Étrange destinée que celle qui me ramène, après ce long espace de temps, à renouveler auprès du souverain légitime les mêmes efforts, les mêmes conseils. Fin des guillemets. Il y a des absences de mémoire ou des mensonges qui font peur. Vous ouvrez les oreilles, vous vous frottez les yeux, ne sachant qui vous trompe de la veille ou du sommeil. Lorsque le débiteur de ces imperturbables assertions descend de la tribune et va s'asseoir impassible à sa place, vous le suivez du regard, suspendu que vous êtes entre une espèce d'épouvante et une sorte d'admiration. Vous ne savez si cet homme n'a point reçu de la nature une autorité telle qu'il a le pouvoir de refaire ou d'anéantir la vérité. Je ne répondis point. Il me semblait que l'ombre de Bonaparte allait demander la parole et renouveler le démenti terrible qu'il avait jadis donné à M. de Talleyrand. Des témoins de la scène étaient encore assis parmi les pairs, entre autres M. le comte de Montesquieu. Le vertueux duc de Doudoville me l'a raconté, la tenant de la bouche du même M. de Montesquieu, son beau-frère. M. le comte de Sessac présente à cette scène, la répète à qui veut l'entendre. Il croyait qu'au sortir du cabinet, le grand électeur serait arrêté. Napoléon s'écriait dans sa colère, interpellant son pâle ministre, « Il vous sied bien de crier contre la guerre d'Espagne, vous qui me l'avez conseillé, vous dont j'ai un monceau de lettres dans lesquelles vous cherchez à me prouver que cette guerre était aussi nécessaire que politique. » Ces lettres ont disparu lors de l'enlèvement des archives privées aux Tuileries en 1814. Entre parenthèses, voyez plus haut la mort du duc d'Enghien. Note de l'auteur. M. de Talleyrand déclarait dans son discours qu'il avait eu le malheur de déplaire à Bonaparte en lui dévoilant l'avenir, en lui révélant tous les dangers qui allaient naître d'une agression non moins injuste que téméraire. Que M. de Talleyrand se console dans sa tombe, il n'a point eu ce malheur, il ne doit point ajouter cette calamité à toutes les afflictions de sa vie. La faute principale de M. de Talleyrand envers la légitimité, c'est d'avoir détourné Louis XVIII du mariage à conclure entre le duc de Berry et une princesse de Russie. La faute impardonnable de M. de Talleyrand envers la France, c'est d'avoir consenti au révoltant traité de Vienne. Il résulte, des négociations de M. de Talleyrand, que nous sommes demeurés sans frontières. Une bataille perdue à Mons ou à Koblenz amènerait en 8 jours la cavalerie ennemie sous les murs de Paris. Dans l'ancienne monarchie, non seulement la France était fermée par un cercle de forteresses, mais elle était défendue sur le Rhin par les États indépendants de l'Allemagne. Il fallait envahir les électorats ou négocier avec eux pour arriver jusqu'à nous. Sur une autre frontière, la Suisse était pays neutre et libre. Il n'avait point de chemin, nul ne violait son territoire. Les Pyrénées étaient impassables, gardées par les Bourbons d'Espagne. Voilà ce que M. de Talleyrand n'a pas compris. Telles sont les fautes qui le condamneront à jamais comme homme politique. Fautes qui nous ont privés, en un jour, des travaux de Louis XIV et des victoires de Napoléon. On a prétendu que sa politique avait été supérieure à celle de Napoléon. D'abord, il faut se bien mettre dans l'esprit qu'on est purement et simplement un commis lorsqu'on tient le portefeuille d'un conquérant, qui chaque matin y dépose le bulletin d'une victoire et change la géographie des États. Quand Napoléon se fut enivré, il fit des fautes énormes et frappantes à tous les yeux. M. de Talleyrand les aperçut vraisemblablement comme tout le monde, mais cela n'indique aucune vision de lynx. Encore se compromit-il d'une manière étrange par l'arrestation du duc d'Enghien, et se méprit-il sur la guerre d'Espagne en 1807, bien qu'il eût voulu plus tard nier ses conseils et reprendre ses paroles. Cependant, un acteur n'est pas prestigieux s'il est tout à fait dépourvu des moyens qui fascinent le parterre. Aussi la vie du prince a-t-elle été une perpétuelle déception. Sachant ce qu'il lui manquait, il se dérobait à quiconque le pouvait connaître. Son étude constante était de ne pas se laisser mesurer. Il faisait retraite à propos dans le silence. Il se cachait dans les 3 heures muettes qu'il donnait au whist. On s'émerveillait qu'une telle capacité pût descendre aux amusements du vulgaire. Qui sait si cette capacité ne partageait pas des empires en arrangeant dans sa main les 4 valets. Pendant ces moments d'escamotage, il rédigeait intérieurement un mot à effet dont l'inspiration lui venait d'une brochure du matin ou d'une conversation du soir. S'il vous prenait à l'écart pour vous illustrer de sa conversation, sa principale manière de séduire était de vous accabler d'éloges, de vous appeler l'espérance de l'avenir, de vous prédire des destinées éclatantes, de vous donner une lettre de change de grand homme tirée sur lui et payable à vue. Mais trouvait-il votre foi en lui un peu suspecte? S'apercevait-il que vous n'admiriez pas assez quelques phrases brèves à prétention de profondeur, derrière lesquelles il n'y avait rien? Il s'éloignait de peur de laisser arriver le bout de son esprit. Il aurait bien raconté. N'était que ses plaisanteries tombaient sur un subalterne ou sur un sot dont il s'amusait sans péril, ou sur une victime attachée à sa personne et plastron de ses railleries. Il ne pouvait suivre une conversation sérieuse. À la 3e ouverture des lèvres, ses idées expiraient. D'anciennes gravures de l'abbé de Périgord représentent un homme fort joli. M. de Talleyrand, en vieillissant, avait tourné à la tête de mort. Ses yeux étaient ternes, de sorte qu'on avait peine à y lire, ce qui le servait bien. Comme il avait reçu beaucoup de mépris, il s'en était imprégné, et il l'avait placé dans les 2 coins pendants de sa bouche. Une grande façon qui tenait à sa naissance, une observation rigoureuse des bienséances, un air froid et dédaigneux, contribuait à nourrir l'illusion autour du prince de Bénévent. Ses manières exerçaient de l'empire sur les petites gens et sur des hommes de la société nouvelle, lesquels ignoraient la société du vieux temps. Autrefois, on rencontrait à tout bout de champ des personnages dont les allures ressemblaient à celles de M. de Talleyrand, et l'on n'y prenait pas garde. Mais presque seul, en place au milieu des mœurs démocratiques, il paraissait un phénomène. Pour subir le joug de ses formes, il convenait à l'amour-propre de reporter à l'esprit du ministre l'ascendant qu'exerçait son éducation. Lorsqu'en occupant une place considérable, on se trouve mêlé à de prodigieuses révolutions, elle vous donne une importance de hasard que le vulgaire prend pour votre mérite personnel. Perdu dans les rayons de Bonaparte, M. de Talleyrand a brillé sous la Restauration de l'éclat emprunté d'une fortune qui n'était pas la sienne. La position accidentelle du prince de Bénévent lui a permis de s'attribuer la puissance d'avoir renversé Napoléon et l'honneur d'avoir rétabli Louis XVIII. Moi-même, comme tous les badauds, n'ai-je pas été assez niais pour donner dans cette fable ? Mieux renseigné, j'ai connu que M. de Talleyrand n'était point un Warwick politique. La force qui abat et relève les trônes manquait à son bras. Des Benêts impartiaux disent « Nous en convenons, c'était un homme bien immoral, mais quelle habileté !» Hélas, non. Il faut perdre encore cette espérance, si consolante pour ses enthousiastes, si désirée pour la mémoire du prince, l'espérance de faire de M. de Talleyrand un démon. Au-delà de certaines négociations vulgaires, au fond desquelles il avait l'habileté de placer en première ligne son intérêt personnel, il ne fallait rien demander à M. de Talleyrand. M. de Talleyrand soignait quelques habitudes et quelques maximes à l'usage des sycophantes et des mauvais sujets de son intimité. Sa toilette en public, copiée sur celle d'un ministre de Vienne, était le triomphe de sa diplomatie. Il se vantait de n'être jamais pressé, il disait que le temps est notre ennemi et qu'il le faut tuer. De là, il faisait état de ne s'occuper que quelques instants. Mais comme, en dernier résultat, M. de Talleyrand n'a pu transformer son désœuvrement en chef-d'œuvre, il est probable qu'il se trompait en parlant de la nécessité de se défaire du temps. On ne triomphe du temps qu'en créant des choses immortelles. Par des travaux sans avenir, par des distractions frivoles, on ne le tue pas, on le dépense. Entré dans le ministère à la recommandation de Mme de Staël, qui obtint sa nomination de chénier, M. de Talleyrand, alors fort dénué, recommença 5 ou 6 fois sa fortune. Par le million qu'il reçut du Portugal, dans l'espoir de la signature d'une paix avec le directoire, paix qui ne fut jamais signée. Par l'achat des bons de la Belgique à la paix d'Amiens, laquelle il savait, lui, M. de Talleyrand, avant qu'elle fût connue du public. Par l'érection du royaume passager d'Étrurie, par la sécularisation des propriétés ecclésiastiques en Allemagne, par le brocantage de ses opinions au congrès de Vienne. Il n'est pas jusqu'à de vieux papiers de nos archives que le prince n'ait voulu céder à l'Autriche. Dupe cette fois de M. de Metternich, celui-ci renvoya religieusement les originaux après en avoir fait prendre copie. Incapable d'écrire seul une phrase, M. de Talleyrand faisait travailler compétemment sous lui. Quand à force de raturer et de changer, son secrétaire parvenait à rédiger les dépêches selon sa convenance, il les copiait de sa main. Je lui ai entendu lire, de ses mémoires commencées, quelques détails agréables sur sa jeunesse. Comme il variait dans ses goûts, détestant le lendemain ce qu'il avait aimé la veille, si ses mémoires existent entiers, ce dont je doute, et s'il en a conservé les versions opposées, il est probable que les jugements sur le même fait, et surtout sur le même homme, se contrediront outrageusement. Je ne crois pas au dépôt des manuscrits en Angleterre. L'ordre prétendu donné de ne les publier que dans 40 ans d'ici me semble une jonglerie posthume. Paresseux et sans étude, nature frivole et cœur dissipé, le prince de Bénévent se glorifiait de ce qui devait humilier son orgueil, de rester debout après la chute des empires. Les esprits du premier ordre qui produisent les révolutions disparaissent. Les esprits du second ordre qui en profitent demeurent. Ces personnages de lendemain et d'industrie assistent au défilé des générations. Ils sont chargés de mettre le visa au passeport, d'homologuer la sentence. M. de Talleyrand était de cette espèce inférieure. Il signait les événements, il ne les faisait pas. Survivre au gouvernement, rester quand un pouvoir s'en va, se déclarer en permanence, se vanter de n'appartenir qu'au pays, d'être l'homme des choses et non l'homme des individus. C'est la fatuité de l'égoïsme mal à l'aise, qui s'efforce de cacher son peu d'élévation sous la hauteur des paroles. On compte aujourd'hui beaucoup de caractères de cette équanimité, beaucoup de ces citoyens du sol. Toutefois, pour qu'il y ait de la grandeur à vieillir comme l'ermite dans les ruines du Colisée, il les faut garder avec une croix. M. de Talleyrand avait foulé la sienne aux pieds. Notre espèce se divise en deux parts inégales. Les hommes de la mort et aimés d'elle, troupeau choisi qui renaît. Les hommes de la vie et oubliés d'elle. Multitude de néants qui ne renaît plus. L'existence temporaire de ces derniers consiste dans le nom, le crédit, la place, la fortune. Leur bruit, leur autorité, leur puissance s'évanouissent avec leur personne. Clos leur salon et leur cercueil, close est leur destinée. Ainsi en est arrivé à M. de Talleyrand. Sa momie, avant de descendre dans sa crypte, a été exposée un moment à Londres, comme représentant de la royauté cadavre qui nous régit. M. de Talleyrand a trahi tous les gouvernements, et je le répète, il n'en a élevé ni renversé aucun. Il n'avait point de supériorité réelle dans l'acception sincère de ces deux mots. Un fretin de prospérité banale, si commune dans la vie aristocratique, ne conduit pas à deux pieds au-delà de la fosse. Le mal qui n'opère pas avec une explosion terrible, le mal parcimonieusement employé par l'esclave au profit du maître, n'est que de la turpitude. Le vice complaisant du crime entre dans la domesticité. Supposez M. de Talleyrand plébéien, pauvre et obscur, n'ayant avec son immoralité que son esprit incontestable de salon. L'on n'aurait certes jamais entendu parler de lui. Ôté de M. de Talleyrand, le grand seigneur avili, le prêtre marié, l'évêque dégradé, que lui reste-t-il? Sa réputation et ses succès ont tenu à ces trois dépravations. La comédie par laquelle le prélat a couronné ses 82 années est une chose pitoyable. D'abord, pour faire preuve de force, il est allé prononcer à l'Institut l'éloge commun d'une pauvre mâchoire allemande dont il se moquait. Malgré tant de spectacles dont nos yeux ont été rassasiés, on a fait la haie pour voir sortir le grand homme. Ensuite, il est venu mourir chez lui, comme Dioclétien, en se montrant à l'univers. La foule a bâillé à l'heure suprême de ce prince aux trois quarts pourri, une ouverture gangréneuse au côté, la tête retombant dans sa poitrine en dépit du bandeau qui la soutenait, disputant minute à minute sa réconciliation avec le ciel. Sa nièce jouant autour de lui un rôle préparé de loin entre un prêtre abusé et une petite fille trompée. Il a signé de guerre lasse, ou peut-être n'a-t-il pas même signé, quand sa parole allait s'éteindre, le désaveu de sa première adhésion à l'Église constitutionnelle. Mais sans donner aucun signe de repentir, sans remplir les derniers devoirs du chrétien, sans rétracter les immoralités et les scandales de sa vie. Jamais l'orgueil ne s'est montré si misérable, l'admiration si bête, la piété si dupe. Rome, toujours prudente, n'a pas rendu public, et pour cause, la rétractation. M. de Talleyrand, appelé de longue date au tribunal d'en haut, était contumax. La mort le cherchait de la part de Dieu, et elle l'a enfin trouvé. Pour analyser minutieusement une vie aussi gâtée que celle de M. de Lafayette a été saine, il faudrait affronter des dégoûts que je suis incapable de surmonter. Les hommes de plaie ressemblent aux carcasses de prostituées. Les ulcères les ont tellement rongés qu'ils ne peuvent servir à la dissection. La Révolution française est une vaste destruction politique placée au milieu de l'Ancien Monde. Craignons qu'il ne s'établisse une destruction beaucoup plus funeste. Craignons une destruction morale par le côté mauvais de cette révolution. Que deviendrait l'espèce humaine si l'on s'évertuait à réhabiliter des mœurs justement flétries? Si l'on s'efforçait d'offrir à notre enthousiasme d'odieux exemples, de nous présenter les progrès du siècle, l'établissement de la liberté, la profondeur du génie, dans des natures abjectes ou des actions atroces. n'osant préconiser le mal sous son propre nom, on le sophistique. Donnez-vous de garde de prendre cette brute pour un esprit de ténèbres, c'est un ange de lumière. Toute laideur est belle, tout opprobre honorable, toute énormité sublime. Tout vice a son admiration qui l'attend. Nous sommes revenus à cette société matérielle du paganisme, où chaque dépravation avait ses autels. Arrière ces éloges, lâches, menteurs, criminels, qui faussent la conscience publique, qui débauchent la jeunesse, qui découragent les gens de bien, qui sont un outrage à la vertu et le crachement du soldat romain au visage du Christ. Chapitre 9. Mort de Charles X. Paris 1839. Étant à Prague en 1833, Charles X me dit « Ce vieux Talleyrand vit donc encore ?» Et Charles X a quitté la vie 2 ans avant M. de Talleyrand. La mort privée et chrétienne du monarque contraste avec la mort publique de l'évêque apostat, traîné récalcitrant au pied de l'incorruptibilité divine. Le 3 octobre 1836, j'avais écrit à Madame la Duchesse de Berry la lettre suivante, et j'y ajoutais un post-scriptum le 15 novembre de la même année. Guillemet. Madame, M. Walsh m'a remis la lettre dont vous avez bien voulu m'honorer. Je serais prête à obéir au désir de votre Altesse royale si les écrits pouvaient à présent quelque chose. Mais l'opinion est tombée dans une telle apathie que les plus grands événements la pourraient à peine soulever. Vous m'avez permis, madame, de vous parler avec une franchise que mon dévouement pouvait seul excuser. Votre Altesse royale le sait, j'ai été opposée à presque tout ce qui s'est fait. J'ai osé même n'être pas d'avis de son voyage à Prague. Henri V sort maintenant de l'enfance. Il va bientôt entrer dans le monde avec une éducation qui ne lui a rien appris du siècle où nous vivons. Qui sera son guide? Qui lui montrera les cours et les hommes? Qui le fera connaître et comme apparaître de loin à la France? Questions importantes qui vraisemblablement et malheureusement seront résolues dans le sens que l'ont été toutes les autres. Quoi qu'il en soit, le reste de ma vie appartient à mon jeune roi et à son auguste mère. Mes prévisions de l'avenir ne me rendront jamais infidèle à mes devoirs. Madame de Chateaubriand demande la permission de mettre ses respects aux pieds de madame. J'offre au ciel tous mes vœux pour la gloire et la prospérité de la mère de Henri V. Et je suis avec un profond respect, madame, de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur. Chateaubriand. Post-scriptum. Cette lettre attendait depuis un mois une occasion sûre pour parvenir à madame. Aujourd'hui même, j'apprends la mort de l'auguste aïeul de Henri. Cette triste nouvelle apportera-t-elle quelque changement dans la destinée de votre Altesse royale? Oserais-je prier madame de me permettre d'entrer dans tous les sentiments de regret qu'elle doit éprouver et d'offrir le tribut respectueux de ma douleur à Monsieur le Dauphin et à Madame la Dauphine. Chateaubriand, 15 novembre. Charles X n'est plus. 60 ans de malheur ont paré la victime. 30 années d'exil. La mort à 79 ans en terre étrangère. Afin qu'on ne pût douter de la mission de malheur dont le ciel avait chargé ce prince ici-bas, c'est un fléau qu'il est venu chercher. Charles X a retrouvé à son heure suprême le calme, l'égalité d'âme qui lui manquèrent quelquefois pendant sa longue carrière. Quand il apprit le danger qui le menaçait, il se contenta de dire « Je ne croyais pas que cette maladie tournât si court ». Quand Louis XVI partit pour l'échafaud, l'officier de service refusa de recevoir le testament du condamné parce que le temps lui manquait et qu'il devait, lui, officier, conduire le roi au supplice. Le roi répondit « C'est juste ». Si Charles X, dans d'autres jours de péril, eût traité sa vie avec cette indifférence, qu'il se fût épargné de misère. On conçoit que les Bourbons tiennent à une religion qui les rend si nobles au dernier moment. Louis IX, attaché à sa postérité, envoie le courage du saint les attendre au bord du cercueil. Cette race sait admirablement mourir. Il y a tantôt 900 ans, il est vrai, qu'elle apprend la mort. Charles X en est allé, persuadé qu'il ne s'était pas trompé. S'il a espéré dans la miséricorde divine, c'est en raison du sacrifice qu'il a cru faire de sa couronne à ce qu'il pensait être le devoir de sa conscience et le bien de son peuple. Les convictions sont trop rares pour n'en pas tenir compte. Charles X a pu se rendre ce témoignage que le règne de ses deux frères et le sien n'avait été ni sans liberté ni sans gloire. Sous le roi martyr, l'affranchissement de l'Amérique et l'émancipation de la France. Sous Louis XVIII, le gouvernement représentatif donné à notre patrie, le rétablissement de la royauté opéré en Espagne, l'indépendance de la Grèce recouvrée à Navarin. Sous Charles X, l'Afrique à nous laissée en compensation du territoire perdu avec les conquêtes de l'Empire. Ce sont là des résultats qui demeurent acquis à nos fastes, en dépit des stupides jalousies et des vaines inimitiés. Ces résultats ressortiront davantage à mesure que l'on s'enfoncera dans les abaissements de la royauté de Juillet. Mais il est à craindre que ces ornements de prix ne soient qu'au profit des jours expirés, comme la couronne de fleurs sur la tête d'Homère, chassée avec grand respect de la République de Platon. La légitimité semble aujourd'hui n'avoir pas l'intention d'aller plus loin. Elle paraît adopter sa chute. La mort de Charles X ne pourrait être un événement effectif qu'en mettant un terme à une déplorable contestation de sceptre et en donnant une direction nouvelle à l'éducation de Henri V. Or, il est à craindre que la couronne absente soit toujours disputée, que l'éducation finisse sans avoir été virtuellement changée. Peut-être, en s'épargnant la peine de prendre un parti, on s'endormira dans des habitudes chères à la faiblesse, douces à la vie de famille, commodes à la lassitude, suite de longues souffrances. Le malheur qui se perpétue produit sur l'âme l'effet de la vieillesse sur le corps. On ne peut plus remuer, on se couche. Le malheur ressemble encore à l'exécuteur des hautes justices du ciel. Il dépouille les condamnés, arrache au roi son sceptre, aux militaires son épée, il ôte le décorum aux nobles, le cœur aux soldats, et les renvoie dégradés dans la foule. D'un autre côté, on tire de l'extrême jeunesse des raisons d'atermoiement. Quand on a beaucoup de temps à dépenser, on se persuade qu'on peut attendre, on a des années à jouer devant les événements. Ils viendront à nous, s'écrie-t-on, sans que nous nous en mettions en peine. Tout mûrira, le jour du trône arrivera de lui-même, dans 20 ans les préjugés se seront effacés. Ce calcul pourrait avoir quelque justesse si les générations ne s'écoulaient pas ou ne devenaient pas indifférentes. Mais telle chose peut paraître une nécessité à une époque et n'être pas même sentie à une autre. Hélas, avec quelle rapidité les choses s'évanouissent! Où sont les trois frères que j'ai vus successivement régner? Louis XVIII habite Saint-Denis avec la dépouille mutilée de Louis XVI. Charles X vient d'être déposé à Goritz dans une bière fermée à 3 clefs. Les restes de ce roi, en tombant de haut, ont fait tressaillir ses aïeux. Ils se sont retournés dans leur sépulcre. Ils ont dit en se serrant, « Faisons place, voici le dernier d'entre nous. » Bonaparte n'a pas fait autant de bruit en entrant dans la nuit éternelle. Les vieux morts ne se sont point réveillés pour l'empereur des morts nouveaux. Ils ne le connaissaient pas. La monarchie française lie le monde ancien au monde moderne. Augustule quitte le diadème en 476. 5 ans après, en 481, la première race de nos rois, Clovis, règne sur les Gaules. Charlemagne, en associant au trône Louis le Débonnaire, lui dit « Fils cher à Dieu, mon âge se hâte, ma vieillesse même m'échappe, le temps de ma mort approche. Le pays des Francs m'a vu naître, Christ m'a accordé cet honneur. Le premier d'entre les Francs, j'ai obtenu le nom de César et transporté à l'Empire des Francs l'Empire de la race de Romulus. Sous Hugues, avec la troisième race, la monarchie élective devient héréditaire. L'hérédité enfante la légitimité, ou la permanence, ou la durée. C'est entre les fonts baptismaux de Clovis et l'échafaud de Louis XVI qu'il faut placer l'Empire chrétien des Français. La même religion était debout aux deux barrières. Doux sycambre, incline le col, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, dit le prêtre qui administrait à Clovis le baptême d'eau. Fils de Saint-Louis, montez au ciel, dit le prêtre qui assistait Louis XVI au baptême de sang. Quand il n'y aurait dans la France que cette ancienne maison de France, bâtie par le temps et dont la majesté étonne, nous pourrions, en fait de choses illustres, en remontrer à toutes les nations. Les Capets régnaient lorsque les autres souverains de l'Europe étaient encore sujets. Les vassaux de nos rois sont devenus rois. Ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques. Les uns sont appelés Auguste, Saint, Pieux, Grand, Courtois, Hardi, Sage, Victorieux, Bien-aimé. Les autres, Pères du peuple, Pères des lettres. Comme il est écrit par Blâme, dit un vieil historien, que tous les bons rois seraient aisément pourtraits en un anneau, les mauvais rois de France y pourroient mieux, tant le nombre en est petit. Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent, la langue se forme, les lettres et les arts produisent leurs chefs-d'œuvre, nos villes s'embellissent, nos monuments s'élèvent, nos chemins s'ouvrent, nos ports se creusent, nos armées étonnent l'Europe et l'Asie, et nos flottes couvrent les deux mers. Notre orgueil se met en colère à la seule exposition de ces magnifiques tapisseries du Louvre. Des ombres, même des broderies d'ombre, nous choquent. Inconnus ce matin, plus inconnus ce soir, nous ne nous en persuadons pas moins que nous effaçons ce qui nous précéda. Et toutefois, chaque minute, en fuyant, nous demande « Qui es-tu ?» Et nous ne savons que répondre. Charles X, lui, a répondu. Il s'en est allé avec une ère entière du monde. La poussière de 1000 générations est mêlée à la sienne. L'histoire le salue. Les siècles s'agenouillent à sa tombe. Tous ont connu sa race. Elle ne leur a point failli. Ce sont eux qui y ont manqué. Roi banni, les hommes ont pu vous proscrire, mais vous ne serez point chassés du temps. Vous dormez votre dure somme dans un monastère, sur la dernière planche jadis destinée à quelques franciscains. Point de héros d'armes à vos obsèques, rien qu'une troupe de vieux temps blanchis et chenus. Point de grands pour jeter dans le caveau les marques de leur dignité, ils en ont fait hommage ailleurs. Des âges muets sont assis au coin de votre bière. Une longue procession de jours passés, les yeux fermés, mène en silence le deuil autour de votre cercueil. À votre côté repose votre cœur et vos entrailles, arrachés de votre sein et de vos flancs, comme on place auprès d'une mère expirée le fruit abortif qui lui coûta la vie. À chaque anniversaire, monarque très chrétien, cénobite après trépas, quelque frère inconnu vous récitera les prières du bout de l'an. Vous n'attirerez à votre sigil éternel que vos fils bannis avec vous. Car même à Trieste, le monument de mesdames est vide. Leurs reliques sacrées ont revu leur patrie, et vous avez payé à l'exil, par votre exil, la dette de ces nobles dames. Et pourquoi ne réunit-on pas aujourd'hui tant de débris dispersés? comme on réunit des antiques exhumés de différentes fouilles. L'arc de triomphe porterait pour couronnement le sarcophage de Napoléon, où la colonne de bronze élèverait sur des restes immortels des victoires immobiles. Et cependant, la pierre taillée par ordre de Sésostris ensevelit dès aujourd'hui l'échafaud de Louis XVI sous le poids des siècles. L'heure viendra que l'obélisque du désert retrouvera sur la place des meurtres le silence et la solitude de Louxor.